Cet épisode a été enregistré le 1er mars 2024. Par conséquent, tout ce que vous allez entendre est peut-être déjà obsolète. Compte plein de retraits, play ball. Trente équipes, deux blaireaux et un podcast par jour. C'est l'épisode 6, c'est présenté par moi, Mike, et la doublure torse de Chris Hemsworth en Thor. Je vous laisse choisir le film. Comment ça va, Guillaume?
Alors, le Thor de Endgame, à mon avis, et encore, je pense qu'il n'est pas encore à mon niveau.
Quand le Farewell tourne... Pardon. Quand le Farewell Tour tourne au drame annoncé, eh ben, on reconstruit les pads du Missouri. Bienvenue chez les St. Louis Cardinals. Marty, t'es encore trompé, c'est pas possible ce bilan, c'est 1995 que t'as mis là. Il y a encore Adam Wainwright, personne n'oserait faire ça. Non, non, Doc, c'est bien 2023, c'est historiquement nul. Eh oui, historiquement nul, 71 victoires, 91 défaites, les Cardinals. Bilan à 438. Dernière losing season, 2007. Avant ça, 1999. Dernière fois qu'ils ont été dernier division, 1990. Avant ça, 1918. Historique, on vous dit historique. Écoute, forteresse imprenable, et puis non, en vrai, dégueulasse. L'un des pires pitching staff de la ligue et certainement de l'histoire de la franchise. Rendez-vous compte, ils sont bottom 10 pour les starters et les releveurs en ERA, WHIP, K par 9, hit par 9. Je vais même plus loin, 29e en K par 9, 29e en hit par 9 pour les starters. C'était un truc de folie. Top 10 de home run concédés dans leur... Ouah, Guillaume, leur meilleur lanceur, Montgomery, tradé, c'est les futurs champions. Oups, spoiler. Batting, Paul Goldschmidt, encore meilleur joueur, mais clairement en dessous, moins 50% de WAR versus 2022. Petite mention pour Nootbaar et Contreras, surtout quand on connaît la petite histoire de Contreras avec des WAR à 3-3 et 3-4. Au niveau du staff, bah Oliver Marmol, hein, deuxième saison de son contrat à 3 ans, donc c'est sa dernière saison. On va en reparler, Oliver, on t'attend, il y a une chicane là-bas. Trade deadline, eh bah écoute, eh, la braderie, lui, souris, mon ami, la braderie, ils ont copié les Pirates qui le font dans leur division depuis... qu'ils existent, à peu près. Ils ont laissé partir Jack Flaherty, Jordan Montgomery, Paul DeJong, Chris Stratton, Jordan Hendricks, Genesis Cabrera. Ils ont même lâché un peu de cash. Tellement les joueurs valaient pas trop ça, c'est que non seulement tu laisses partir des noms, mais tu donnes un peu d'oseille quand même pour t'en débarrasser. Et ils ont récupéré César Prieto, Drew Rom, Zach Showalter, Thomas Sakis, Tekoa Roby, John King, Matt Svensson, Sam Roberts, ouais, le Sam Roberts, Adam Klopfenstein et Samuel Hernandez. Vous ne les connaissez pas, c'est normal. Je crois que même le board des cartes, vous ne les connaissez pas. Oliver Marmol nous a fait un petit office, une petite masterclass de communication. En 2023, il remet en cause publiquement O'Neill parce qu'il n'est pas assez impliqué dans sa course sur base. En juillet 2023, il remet en cause publiquement Carson et il le met sur la touche pour O'Neill. Franchement, magnifique masterclass, trophée individuel. Bah non, hein, quand t'es des losers de l'année, clairement, tu n'en as pas.
Et il y a aussi, juste coupe 30 secondes parce qu'il y a aussi la grosse polémique sur Contreras, l'énorme polémique de Contreras sur toute l'année.
On l'a évoqué, on en reparlera quand même parce qu'il y a une petite gestion de Contreras où soi-disant t'es nul, tu repars en DH, t'es pas assez bon, finalement on revient parce que l'autre en vrai il est pas bon et parce que t'es pas Yadier Molina, mais on le savait quand on t'a signé, mais on attendait que tu le sois. Allez, je m'arrête. Milestone, Adam Wainwright, 200e win quand même dans sa carrière. Bravo monsieur, bravo. Oui. Hein, moins deux de WAR sur la saison, ça aussi bon. C'est un milestone. Pecota et Boyer, deuxième, 86 victoires, 76 défaites, 15 matchs de moins. 15 matchs, franchement, personne ne les voyait champions, mais au moins la bataille pour la first place. Alors Guillaume, pas de post-season.
Ah non, pas de post-season, place à la off-season. Alors, c'était quoi les masses salariales? En 2023, la masse salariale projetée, c'était 152 millions de dollars pour l'année 2024. Eh ben, vu que ça n'a pas marché, on va remettre un peu plus de pognon et on va voir ce que ça va donner. 169 millions de dollars, 10e payroll de la ligue. C'est kiff-kiff, mais quand même un petit peu mieux. On va voir qu'est-ce que sont les enjeux. Bah, c'est surtout des starters parce qu'il y en a besoin, et des releveurs. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait en off-season? En arbitration, ils ont re-signé Tommy Edman, deuxième base, Ryan Helsley, releveur, Dylan Carlson, center field. En free agency, ils ont conservé personne. Par contre, ils ont signé Kanan Middleton, releveur qu'ils ont signé pour un an, Matt Carpenter, DH qu'ils ont signé pour un an, Sonny Gray, starter qu'ils ont signé pour 3 ans, Cal Gibson, starter signé pour 1 an, Lance Lynn, starter signé pour 1 an, Brandon Crawford, shortstop signé pour 1 an. Ils ont perdu Jake Woodford, à qui ils ont pas offert de contrat, Dakota Hudson, starter à qui ils ont pas offert de contrat, Andrew Andrew Snickers à qui ils ont pas offert de contrat. Juan Yepes, à qui ils n'ont pas offert de contrat, et Drew Verhagen, qui releveur qui a décidé de déclarer free agency. En trade, ils ont récupéré Andrew Kittredge, releveur de Tampa, pour Richie Palacios, Nick Robertson, releveur de Boston, pour Victor Santos, avec Victor Santos et Tyler O'Neill, Riley O'Brien, releveur qu'ils ont récupéré de Seattle pour du cash. Et ils vont commencer la saison avec 2 blessés, puisque on a Tommy Edman qui est blessé et Dylan Carlson. Les top prospects, il y en a 3 dans le top 100. C'est Mason Wynn, shortstop, qui est MLB ready, qui va jouer normalement en 2024. Tink Hens, lanceur droitier, qui a joué en double A et qui devrait arriver en 2024 et qui arrivera également en 2024. Numéro 99, Tekoa Roby, encore un lanceur droitier. Le farm system reste, on va dire, dans le milieu de tableau, puisque c'est 13e pour les Saint-Louis Cardinals, ce qui est quand même pas mal, puisqu'ils n'ont pas eu réellement de first pick, ils ont toujours été dans les derniers picks ces dernières années, donc c'est quand même pas mal, ça prouve que tu développes bien.
Ouais, après, le gros défaut est souligné par tout le monde, c'est qu'ils ont des très bons joueurs qui devraient arriver, mais zéro super tard, et que les leurs vieillissent un peu.
C'est ça. Bon, alors ça va nous donner quoi en fait pour le line-up et la rotation de cette année? En prévision, c'est en catcher Wilson Contreras, première base Paul Goldschmidt, deuxième base Nolan Gorlan, troisième base Nolan Arenado, shortstop Mason Wynn, champ gauche Lars Nootbaar, champ centre Tommy Edman, champ droit Jordan Walker, DH Brendan Donovan, sur le banc Dylan Carlson, Matt Carpenter, Ivan Herrera, Brandon Crawford. Au niveau de la rotation, bah, le l'ace qu'ils ont récupéré, Sonny Gray, ensuite suivi de Miles Mikolas, Cal Gibson, Lance Lynn et Steven Matz. En setup, Giovanni Gallegos, en closer, Ryan Helsley, et le reste du bullpen, André Palante, Jojo Romero, Romero, Kenyon Middleton, John King et Ryan Fernandez. Qui on sort du lot, Mike, pour la saison à venir?
Bah, on va déjà parler de la doublette Goldschmidt-Arenado, quand même. Le duo qui, en 2022, a divisé sa WAR par 2,25.
Ouais, ça, c'est fou.
C'est
ça.
Incroyable. Et ils doivent porter l'équipe à tous les niveaux, en plus, normalement. Hein. C'est offense et defense. Les deux sont vraiment les corner guys. C'est eux qu'on attend. Là, je n'aide pas. Goldschmidt, il a quand même posé sa seconde pire WAR en saison depuis 2013. Et quand même, c'était pas dégueu, hein, 3,7, c'est pas foufou. Ouais. Arenado, seconde pire roi en saison depuis 2014, qui était que sa deuxième saison en MLB, à 2,6. Donc, en vrai, sur la partie offense, on attend de ces gars-là, qui vont quand même frapper 2 et 4, qu'ils soient, c'est les piliers solides, quoi. C'est-à-dire que, on attend que ces mecs-là soient des top 10 MVP. On attend que ces mecs-là soient à minima des candidats à Gold Glove pour pas être Gold Glove. On attend qu'ils soient les leaders sûrs, quoi. Tu vois, les mecs que tu veux voir quand t'as deux retraits, compte plein en fin de 9e et que t'as besoin de scorer, quoi. Et on va les attendre parce que justement, il faut que derrière, il y a plein de joueurs petits jeunes, moins jeunes, qu'on attend. Mais aujourd'hui, on parle des deux seuls joueurs de l'effectif projetés dans le top 100 en 2024 par FanGraph.
Ouais, c'est ça. Et en fait, alors, faut remettre en perspective quasiment 3 de WAR pour les deux, presque 4 pour Goldschmidt, presque 3 pour Arenado. On est sur du bon joueur, du très bon joueur. Mais c'est le truc, c'est qu'il nous avait habitués à tellement mieux que c'est pas le niveau en fait. Et c'est d'ailleurs, c'est en fait cette baisse, elle pose question sur la façon dont ça a été géré la saison dernière et pourquoi ils ont eu une baisse aussi énorme. Parce que c'est pas un qui a été moins bon et l'autre qui gardait, c'est les deux en même temps. Et ça pose réellement des grosses grosses questions en fait sur le reste. Donc on va mettre ça de côté et mais on va passer au niveau pitching. On a un autre joueur qui ressort du lot en fait et qui a été la grosse acquisition. C'est Sonny Gray. Sonny Gray, en fait, sort d'une très grosse saison avec les Twins, puisqu'il les amène, il fait partie en fait de la starting rotation qui les amène sur les playoffs et qui leur permet d'aller, alléluia, d'aller gagner au moins une série en playoffs, en post-season. Non, le problème, c'est que Sonny Gray, il le paye, c'est une très belle acquisition, mais ça pose aussi des questions, parce que Sonny Gray, il a eu des endroits dans lesquels il a été très bon, et il a eu d'autres endroits, et notamment chez les Yankees, avec toute cette pression qu'on connaît de New York, du Bronx, en fait, où bah il a jamais réussi à sortir une bonne saison, et ça a été très compliqué pour lui. On sait pas trop, et on sait que les Cards, il y a moins de pression qu'aux Yankees, mais tu as quand même une pression, parce que c'est un club historique.
L'idée de Sonny Gray, c'est quand même qu'il est le 7e salaire de la franchise quand on rentre en 2024. Rendez-vous compte quand même que Miles Mikolas, Steven Matz et Cal Gibson vont toucher plus que lui. Il va avoir le même salaire que Lance Lynn. Donc en vrai, l'espoir aussi, c'est un des contrats les plus team-friendly de la free agency, hein, on va pas se mentir. Hein. C'est qu'il arrive à répondre grâce à ça et que même si en vrai, les Saint-Louis, c'est un marché qui est moyen à la base, même limite un petit marché. C'est l'histoire de la franchise et cet amour de la ville pour le baseball qui fait ça. On y croit. Maintenant, le problème derrière Sonny Gray, c'est qu'il y a qui derrière Sonny Gray, Guillaume ? Il y a Gibson, Lynn, Nicolas,
Steven Matz. C'est le pavé dans la mare. Non, mais c'était une grande crise de rigolade, justement, au moment de la off-season, quand sur la même journée, on nous annonce qu'on va récupérer Cal Gibson et Lance Lynn, alors que c'était des « oui, on va rebâtir la starting rotation ».
Il y avait déjà eu Nicolas, et maintenant Gray, et puis Matz. En fait, en gros, sur le papier, en vrai, on était en 2015, la rotation, hey, mec, top rotation. Tu dis « wow, magnifique, elle fait vraiment mal ». Là, il y a un moment, l'an dernier, que ce soit Flaherty ou Matz, c'était les mecs qui étaient le plus de swing and miss. Ils en ont manqué beaucoup. Et quand tu regardes les stats des gars qui arrivent, c'est pas des mecs qui vont en mettre beaucoup. T'as Zach Thompson qui est en AAA, qui attend qu'une seule chose pour intégrer le 40-man roster pour prendre une place. Ils ont des talents en AAA, mais franchement, est-ce qu'ils ont des mecs qui sont sûrs de soi? Rendez-vous compte que, et la starting rotation aide beaucoup, t'as pas un mec qui a moins de 32 ans, c'est l'équipe la plus vieille de la ligue. Hein.
Ouais. Non, mais c'est, et pourtant, tu vois, je regarde les projections, c'est fou de se dire que Nicolas, Gibson et Lynn sont projetés dans le top 100. Moi, j'hallucine de voir ça.
Gibson, il est projeté dans le top 50,
c'est top. Non, mais c'est n'importe
Matz,
quoi.
Matz, il est 117e. Quand tu regardes les projections de Fangraph, t'as l'impression que cette rotation, c'est une top 5 rotation.
Alors que tu sais très bien que sur le papier, ça allait peut-être, mais sinon, non, tu les connais, tu sais que ça
mais
va pas.
Mais tu sais
le
pourquoi?
Faire.
Parce que regarde, Sonny Gray, 175 manches, 182 manches pour Miles Mikolas, 175 pour Cal Gibson, 75 pour Lance Lynn, 115 pour Steven Matz. Et en fait, tu te dis que avec tout ça, quand en plus tu as un bullpen où tu as 2-3 noms, les Elsley, Gallegos, qui sont quand même... c'est quand même pas mal. Ça peut être un des top duos, hein, en vrai. Hein, mais ils ont trop d'irrégularité. 11 blown saves l'an passé. Les Dodgers, dans toute l'équipe, ils en ont 16.
C'est fou.
Ouais, non, c'est un délire. Et en fait, le bullpen, le mec, il a signé Kittredge, Middleton, Ryan Fernandez. Il a balancé des noms qui sont des mecs qui sont quand même assez âgés, pas du tout très très bien projetés. Il a gardé des mecs comme Payante ou autres qui sont pas non plus très bien projetés. Ça pose des questions, la construction de ce pitching staff, parce que ce qu'on a vécu et ce qu'on a commencé à alerter déjà il y a quelques saisons, en disant « Oh les gars, attention, il y a des fins de contrat, il y a des vieux. » Adam Wainwright était encore, à l'entrée de 2023, considéré comme le meilleur lanceur de la franchise. Ça pose question.
Non, mais c'est clair. Mais en plus, là, ils ont encore été récupérés Carpenter. Je te demande même pourquoi ils ont été le rechercher, parce que c'est fou. Non, c'est très, très, très questionnant. Et moi, ce qui m'inquiète plus au-delà des joueurs, c'est comme pour d'autres franchises, quoi. Là, aujourd'hui, c'est la gestion de l'effectif et la façon dont on gère, en fait, toute la communication qu'il y a autour du club, quoi. Parce que On a commencé à l'évoquer avec les baisses de niveau de Arenado et de Goldschmidt, mais ça passe aussi par, comme tu l'as dit avant, hein, les problèmes de communication, le fiasco de Contreras, c'est tout ça, quand tu le mets bout à bout, ça pose beaucoup de questions sur la façon dont la franchise elle est gérée ces derniers temps.
Bah, t'as une gestion, par exemple, un Tommy Edman, qu'on veut mettre toujours en fin d'alignement. Tu sais que Tommy Edman, c'est l'un des joueurs comme les plus underrated de la ligue. Il est troisième meilleur WAR cumulé pour un champion depuis 2021 derrière Judge et Mullins. Ça pose un peu le garçon et il est encore projeté même pas dans le top 100. Lars Nootbaar, Brandon Donovan, tous ces mecs-là, c'est quand même des mecs qui normalement devraient performer un peu plus et qu'on attend. C'est typique des Cardinals, t'attends pas qu'ils soient là et puis d'un coup, hop, oh, ces gars sont très bons. Wilson Contreras, comment tu vas le gérer, Wilson Contreras? La saison qu'il a vécue l'an dernier, c'est un calvaire absolu. Le scandale, la mauvaise gestion d'Oliver Marmol. Là, maintenant, il a un Sonny Gray qui arrive, donc ça va être un petit peu plus facile quand même à catcher. La gestion d'Ilan Carson, qui était un ancien prospect qui se retrouve sur le banc. Tout a droppé, son arrêt pourcentage, son barrel pourcentage. En dessous de la ligue quand même average, ça a été, c'est pas bon, et puis tu viens là-dessus remettre deux gars, Matt Carpenter et Brandon Crawford, avec deux histoires différentes, mais Matt Carpenter, c'est quoi? C'est un Puyol x2, il n'y a pas le même track record, c'est un gros historique de blessures, soi-disant il vient guider les petits plus frapper des home runs, c'est ça un peu l'idée. Brandon Crawford, tu peux nous dire c'est quoi l'excuse de la signature de Brandon Crawford, s'il te plaît, Guillaume?
Mais, alors, la signature, en fait, c'est de dire qu'ils avaient besoin d'un vieux dans l'infield, en fait, pour un petit peu tenir tout le truc, quoi. Et en fait, tu te dis, mais attends, mais Brandon Crawford, il était déjà cramé, là, depuis au moins deux saisons, là, chez les Giants. C'était déjà les saisons de trop. Carpenter, il est cramé. Il a fait une saison, sur l'envol du Phoenix chez les Yankees. Après,
même
ce qu'il
pas
a fait derrière,
saison,
c'était
dégueulasse. Ouais. Il s'est blessé.
Après, c'était dégueulasse, quoi. Et en fait, ces deux signatures, putain, mais moi, ça va exactement avec la même que la signature de Lance Lynn. Quand il signe Lynn, je fais, mais pourquoi? Mais pourquoi? Je comprends pas ces signatures, quoi. Et je vais reparler encore de Wilson Contreras, parce que moi, ce qui m'a fait chier, c'est qu'en fait, il y a eu toute cette communication autour en disant, ouais, il est pas bon, il est machin. Putain, Wilson Contreras, aujourd'hui, enfin, sur la saison dernière, c'est avec Goldschmidt, c'est ta meilleure WAR. Il est à 3,4 WAR sur l'année. Alors qu'un Nolan Arenado, on en a pas parlé et il est à 2,4. Pose-toi plus de questions quand même sur un mec qui passe du noir à 6 ou 7 et qui la descend à 2,4 plutôt qu'un mec où tu te dis qu'il est pas très bon mais il te fait les mêmes noirs que ce qu'il faisait après dans les 3,5-4, quoi. Tu vois, là il y a
exactement ça. Tu signes un vieux comme Crawford pour accompagner un infield où en termes de vieux, t'as quand même Goldschmidt, Arenado, Contreras et que pour les aider au niveau de la butte, t'as que des papitos. Bon, enfin bon. Voilà. Non, il y a un vrai problème. Et Oliver Marmol va être au centre de toutes ces discussions. C'est sa dernière année de contrat. S'il nous refait une année à peu près de l'acabit de ce qu'il a fait cette saison, ça va être très, 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 très compliqué pour lui. Oubliez juste pas un truc sur la partie de la trade deadline de cette année qu'on a un petit peu survolé comme ça, par-ci, par-là. Les mecs, ils signent quasiment que des one-year contracts. Ok? Hormis Sonny Gray, il n'y a que des one-year contracts. Ce sont des chips de trade si jamais ça ne va pas. On n'a même pas parlé de Lars Nootbaar, mais voilà, c'est peut-être la future star des Cardinals, en tout cas elle est projetée comme ça. Mais je pense, Guillaume, qu'on peut passer, en parlant de future star, au prono de l'équipe avec nos partenaires de Paris à tort, le seul site de Paris sportif qui vous assure de perdre de l'oseille. Alors, Guillaume, pour les Cardinals, post-season ou pas post-season?
Non, pas post-season. Je les vois pas terminer dernier parce que je pense qu'il y a eu un épisode pirate où il y a eu trop de victoires à un moment qui a faussé un petit peu le truc. Mais je les vois pas non plus au-dessus entre les Brewers, les Cubs, les Reds. Si ça continue sur la même lancée que la saison dernière, je les vois quatrième et je les mettrai à 77 victoires.
77 victoires. Écoute, moi je les vois quand même troisième parce que j'ai encore quelques petits doutes et je me pose des questions notamment sur les Reds et les Pirates. Et je vais même te dire un truc, j'attends quand même de voir ce que vont réussir à faire les Cubs dans la durée. Je pense que les Goldschmidt, Arenado, il y a un moment, ça va pas être aussi dégueu que t'en as d'autres qui vont arriver. Ma question c'est quand est-ce que vous changez le manager? Donc du coup, moi je les vois quand même beaucoup mieux que ça. Et moi je les vois même atteindre un petit 82-80, tu vois, un truc un peu plus honnête, quoi. Limite tu passes dans la wild card comme ça par le fond du trou de souris, un gros coup de chat et tu vas te faire défoncer comme tu as l'habitude de le faire. Non, non,
c'est
mais,
ça.
Bah oui, c'est exactement ça. On en est là, Guillaume. Donc du coup, je cherche ma. Non seulement j'ai pas la transition, mais je n'ai pas mon anti-sèche. Vous pouvez nous écouter sur toutes les bonnes applis de podcast. Et ça, c'est peut-être la seule chose sensée que j'ai dite depuis le début. N'hésitez pas à vous abonner, nous donner une note et un commentaire. Cela nous aide à rendre le baseball et notre émission plus visible en France. Guillaume, est-ce qu'on se réécoute demain?
Allez, oui. Eh oui, en santé, on se réécoute demain. Miguel, bate, hake, mate. Miguel, bate, hake, mate. Moss looks up and it's gone. Miguel Cabrera. Revise sus guías y acompáñenos esta noche de show. Soy Miggy, el salsero que da la pelea, demostrando que los peloteros se la crean. Representando la vieja escuela, aparte de jugar, escribimos candela. Lanza tu mejor rima, que de los tigres la batea. El que no se acuesta cuando rumbea. El triple crown, nacido y criado en Venezuela. Vengo de barrio humilde, llamado La Pedrera. Los gringos bailan pegados, aquí no se juega. Aquí hay más talento, esto suena a bandera. Rima de sobra, pa' matar cualquiera. Se vino a guerrear, empujé otra carrera.